Quasiment la première démonstration d'un projet sur lequel je bosse depuis un an et demi, qui est une espèce de méta-projet. C'est-à-dire que moi je travaille sur des projets qui sont construits de plein d'éléments, qui s'amplifient. Donc le projet global s'appelle Terre Seconde, et c'est un projet autour de l'intelligence artificielle, plus exactement de l'imagination artificielle, qui est un peu le concept que je défends, comme une espèce d'alternative au discours dominant sur l'intelligence artificielle, Donc je trouve qu'on parle beaucoup d'intelligence et très peu d'imagination. Je trouve que l'art est plus du côté de l'imagination que du côté de l'intelligence, pour le dire simplement et simplement. Et voilà.
Comme disait Baudelaire, la reine des facultés.
Alors, non. On pourrait en parler longuement. J'ai un séminaire à Normal Sup sur le sujet. Je m'occupe d'un séminaire à Normal Sup sur ça. Mais c'est un sujet intéressant. Mais on en parlera après. Donc l'idée, c'est d'utiliser les réseaux récursifs de neurones. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'ont les machines d'apprendre. On leur donne beaucoup de données et elles apprennent. Donc on passe d'un art programmé, algorithmique qu'on connaissait depuis 40 ans quasiment, à une forme d'art d'apprentissage qui est très très différente. C'est plus tellement du code. Enfin, donc le code est un peu mis de côté. Donc en fin de compte, là, cette projection, c'est donc j'ai nourri un réseau récursif de neurones avec des images de satellites. Et la machine a appris à faire des images qui ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est comme une Terre, un peu alternative, qui n'est pas notre Terre, mais qui pourrait y ressembler. Donc c'est une machine qui commence à imaginer ce que ce serait une Terre, une deuxième Terre. Alors quel est le statut de cette deuxième Terre? C'est une vraie question. J'ai appliqué ensuite le deep learning, donc cet apprentissage des machines au volume qu'on voit là. Donc j'ai trouvé sur internet des fichiers 3D d'ossements. Et j'ai appris à la machine à essayer de créer des ossements d'espèces qui n'existent pas encore. Donc c'est des ossuaires. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que internet est un immense ossuaire. Parce qu'on y met toutes nos existences, toute notre mémoire, et qu'on pourrait considérer ça comme un ossuaire, comme cet endroit où depuis très très longtemps, on met plusieurs ossements. Alors, ça pose plein de questions ethno et anthropologie. Et donc voilà, donc ça c'est de l'impression 3D retravaillée, mais les fichiers 3D, c'est vraiment des productions automatiques en fin de compte, à partir d'ossements. Donc là on voit un peu plus une forme d'ossement. C'est vraiment, bien sûr, c'est très retravaillé, c'est pas vraiment ça. Et les images qui sont en dessous, elles ont chacune une histoire. L'image qui est là, c'est une Manning Billet, qui est philosophe, avait écrit un texte. C'est lui qui m'avait un peu mis sur cette piste. Donc c'est une vidéo au moment de Fukushima, au Japon. Et donc c'est une caméra qui est dans une voiture, et le conducteur est parti. Et donc on voit juste la caméra qui flotte et qui filme. Donc c'est comme une voiture autonome, mais pas Google, je dirais, avec cette drôle de chose de tout ça qui glisse dans les flux, et qui est, pour moi, la question des flux, qui est une question qui m'a longtemps obsédé, et qui est cette espèce de monde où à un moment tout glisse, et tout glisse sur la surface de la Terre. Et puis aussi cette vision assez belle d'une caméra sur une voiture embarquée, quoi. On a tous vu des vidéos sur YouTube de caméras russes dans des voitures russes avec des accidents de dingue, etc. Donc on a, voilà, c'est... Alors, ça c'est une autre... Donc ça c'est une tempête en haute mer. Donc c'est un porte-container. C'est la vision d'un porte-container. Donc on est un peu dans le même registre. On est... Et donc c'est une tempête en fait. Et donc c'est ralenti et... moi j'allais faire un trajet en porte-container entre le Canada et la Chine. Et en fait, quand il y a une tempête, c'est hyper impressionnant. Parce que c'est des énormes bateaux, mais en fait, les tempêtes, c'est des vagues sont absolument énormes. Donc voilà, donc là, il y a des chocs, il y a des glitches. Et puis là, il y a deux vidéos. Donc, vous allez voir la première. Donc ça, c'est l'image d'un babouin. En fait, c'est en Éthiopie, c'est des babouins qui vivent dans des décharges, où il y a des charges humaines. Ils se nourrissent de ce qu'on laisse. Et en fin de compte, on a découvert qu'ils adoptaient des chiens. Ils volent des petits chiots, ils les adoptent et ensuite les chiots vivent avec eux. Et vivent dans la... et les protègent en fin de compte. Donc au début, c'est assez violent. Donc c'est vraiment les sabines, quoi. Il y a un truc de soumission où il enlève le babouin, qui est un animal assez violent, enlève ce petit chiot, mais ensuite il va devenir un membre de la famille qui va dormir avec eux, etc. Alors là, la fin de l'histoire, c'est que tout de même. Donc c'est une image assez traumatisante, quoi. Il y a un côté très. Non, mais il y a un côté assez traumatisant. Hein. C'est en plus le babouin, le petit chien, le côté assez sexué, hein, c'est évident. L'enlèvement des sabines, il y a un côté très comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est cette violence interanimale. Et Moi, j'étais très fasciné dans les images dans YouTube de tout ce qui est interspécies, hein, les communications entre des espèces qui ne sont pas les espèces humaines, hein, qui sont d'autres espèces, le chat, le dauphin, etc. Et ensuite, il y a une autre vidéo voilà, qui va arriver, qui est un chat qui joue avec une sculpture de chat. Et donc, il reconnaît son semblable et son dissemblable. Et il miaule, il tourne autour, il joue, mais il sait que c'est pas un chat. Et ça, c'est, ça veut dire que, encore moi, c'est comme ça que j'interprète, c'est les animaux sont capables d'avoir une représentation de l'art, en fait. C'est-à-dire, l'aura, selon Benjamin, c'est quelque chose qui pourrait lever les yeux sur nous. C'est comme ça que Benjamin définit l'aura. Et en fin de compte, il joue, il sait que c'est pas vraiment un chat. Donc voilà, donc c'est des images, ces trois images qui sont globalement pourquoi je les ai mises. Ces trois types d'images trouvées sur YouTube, qui sont un peu traumatisantes, chacune à leur manière, des images un peu traumatiques comme ça, dont la nature est incertaine, qui sont des traces aussi de notre époque, et le fait que l'hypothèse qu'il y a derrière le projet, c'est qu'on ne comprenait pas très bien à quoi servait Internet depuis le début. Enfin, pourquoi le Big Data, pourquoi les entreprises dépensent des milliards pour accumuler toutes nos existences, pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Et on savait pas très bien, parce que ça coûtait très cher, et même en termes de marketing, c'était pas évident, quoi. Et en fin de compte, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que ça permet de nourrir les machines. Et que les machines apprennent à faire des choses qui nous ressemblent. Et c'est ce que fait Facebook, c'est ce qu'en font toutes les entreprises, la Google, tous les membres des GAFA, ils vont à fond. Et en fin de compte, la grande découverte, et ça c'est un truc énorme dans l'histoire de l'art, à mon avis, et ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans finalement, même si le système existe depuis les années 50, c'est que les machines savent maintenant faire de la ressemblance. Avant, dans l'art numérique, on avait un problème, c'est que quand vous êtes l'image numérique, générative, c'était vectoriel, abstrait, du pixel. Donc ça rattachait nécessairement à une histoire assez moderniste de l'art. Là, les machines sont capables de faire de la ressemblance, de la mimésis. Et ça, c'est assez récent, par contre. C'est à faire des choses qui, on leur donne 1000 images d'oiseaux, ils arrivent à faire des oiseaux qui n'existent pas. Et ça c'est une grande... c'est très récent. Et donc, en même temps, c'est une révolution dans la société, et en même temps, l'art a vraiment une, à mon avis, une place très singulière là-dedans. Je sais pas pourquoi ça s'arrête.
Et la voix ?
Alors, ah oui, la voix, oui. Donc la voix, il faut se rapprocher pour un peu plus ou moins comprendre. Donc c'est un texte qui dure environ, je pense, 4 heures. Donc c'est assez long. Donc c'est un texte que j'ai écrit en partie, que j'ai généré, donc c'est un mélange de textes littéraires mi-généré, mi-écrit, donc c'est ma voix. Et c'est une espèce de... c'est la machine en fait, hein, qui parle, c'est la machine qui fait tout ça, qui se parle à elle-même, et qui se demande pourquoi elle fait ça. Et donc c'est comme un peu un cogito cartésien, mais c'est pas un être humain qui est dans le doute radical, c'est une machine. Et c'est beaucoup plus crédible quand c'est une machine qui est dans le doute radical que l'être humain. Et donc il se demande, cette machine se demande si par exemple la voix, pourquoi d'abord, est-ce qu'elle est sûre qu'il y a une voix ? Est-ce que c'est un texte déjà enregistré, qui est déjà écrit, qu'elle fait réciter, ou est-ce que c'est généré en temps réel ? Est-ce qu'il reboot tout le temps ? Donc il se pose plein de questions liées à la machine, mais qui sont liées, qui pourraient être des questions de conscience en fin de compte. Et il se dit, mais peut-être que le sentiment que j'ai d'avoir une conscience, c'est un truc complètement factice, quoi. Donc il est dans une espèce de doute et de perte complète de repères. Donc c'est très répétitif, donc on peut le prendre à n'importe quel moment, écouter ça 30 secondes, 5 minutes, ça change rien.
S'il y a quelque chose comme puissance, peut-être pas à quel endroit se positionne celui-ci.
Et est-ce que ce texte,
tu serais
d'accord pour nous le donner,
pas
pour diffuser ?
Alors pour vous le donner, oui, mais on ne peut pas le diffuser parce qu'il va bientôt être publié sur le centre de livre.
C'est juste pour que nous, on fasse, tu vois, quand on parle de l'exposition...
Bien sûr, je peux
vous... On comprendra
mais c'est un texte qui peut faire, je sais pas, 80 pages, c'est quand même assez long, hein, c'est un texte un peu comme ça.
Quel livre ça va être ?
Ça va être, en fait, bon, je publie un livre qui va s'appeler L'imagination artificielle, et la moitié du livre, c'est la moitié est un texte fictionnel, spéculatif et l'autre moitié est théorique. Donc l'idée, c'est de mettre, de faire le premier livre sur l'imagination artificielle. Voilà. Essayer de définir ce concept.